Sermano et vous êtes sur un nouvel épisode du podcast de Nakan, un épisode où on va réécrire un petit peu la suite d'une histoire qu'on a déjà abordée. Mais tout d'abord, pour m'accompagner dans cet épisode qui sera, dans cet exercice qui sera peut-être un peu périlleux, l'ami Grégory Chanez. Salut Greg.
Salut Hermano, comment vas-tu?
Ça va, comme tu vois, je suis un petit peu bronzé, un peu fatigué. J'ai pas été en vacances, j'ai juste été un petit peu en déplacement, donc je viens juste de sauter sur le micro. Et toi, comment vas-tu?
Bah écoute, tu vois, je me suis un peu fourvoyé dans le dernier épisode que j'ai enregistré tout seul. Bah, je disais fièrement que t'étais en vacances, mais en fait, t'étais pas vraiment en vacances. T'étais en train de faire des choses un peu moins reposantes que des vacances. Mais du coup, voilà, je suis content de te retrouver pour cet épisode. Moi, je vais bien. Les auditeurs se rendront peut-être compte que je suis en plein air pour enregistrer cet épisode, parce que voilà, j'ai profité de sauter juste après un entraînement sur mon micro et puis sur mon matériel pour enregistrer le podcast pour vous rejoindre, toi Hermano et puis notre invité du jour. Tu l'as dit, aujourd'hui au niveau thématique on va peut-être sortir un petit peu de notre zone de confort, hein, on va voir ce que ça va donner.
Ouais, tout à fait. Alors tu as parlé d'un invité, bah écoute, je pense que c'est le moment de le présenter. Déjà je pense qu'on dit Maître Forêt, n'est-ce pas?
Formellement oui, mais je pense que pour ce soir on peut mettre un thermomètre et
Ok, donc ce sera uniquement Thomas. Et bah salut Thomas, bienvenue sur le podcast de Nakan, enchanté de te compter parmi nous ce soir.
Salut Armando, salut Grégory, et bah, merci de me recevoir.
C'est un plaisir de t'accueillir et bien on va profiter de tes connaissances pour essayer d'éclaircir certains sujets qui nous ont posé quelques interrogations dans les mois précédents.
Ouais, et je voulais justement remettre un petit peu en contexte, tu es un auditeur du podcast de Nakan, tu as écouté un épisode de la série sur le dopage, entre autres, j'espère que tu les as tous écoutés, que tu les as tous dévorés, et tu as pris contact avec nous justement pour nous dire que tu pouvais peut-être nous apporter quelques précisions par rapport à quelques interrogations qu'on pouvait avoir avec notre invité du jour et avec le sujet que l'on abordait. Donc avant qu'on rentre vraiment dans le vif du sujet et qu'on en dise un petit peu plus sur l'épisode en question, moi ce que je te propose c'est de te tendre le micro, te laisser te présenter. Donc dis-nous tout, qui est le maître Thomas Forêt?
Je vais pas tout vous dire, mais donc je suis avocat au barreau de Paris. Je suis spécialisé pas du tout en droit du sport, mais en droit public et en droit de la construction. Mais je m'intéresse plus généralement à l'ensemble des questions juridiques et notamment au droit administratif. On va voir que c'est ça rejoint le sujet qui nous occupe ce soir. Je suis sportif à mes heures perdues, puisqu'effectivement je vous ai écouté pas seulement cet épisode là mais beaucoup d'autres, pas tous, il y en a trop, mais beaucoup tout au long de l'hiver en préparant le marathon de Paris 2022. Voilà, vous m'avez accompagné un certain nombre d'heures.
Eh ben écoute, merci à toi de nous écouter régulièrement. J'espère que nos productions te plaisent et puis que les sujets qu'on aborde correspondent un petit peu à tes attentes. Si c'était pas le cas, n'hésite pas, comme tu l'as fait la dernière fois, à prendre contact, à nous le dire. Comme ça, on peut aussi aborder des sujets que notre audience préfère. Thomas, donc tu nous as dit avocat, spécialiste plutôt en droit de la construction et en droit public, mais tu t'intéresses aussi au droit administratif. Tu voulais justement réagir quand tu as pris contact avec nous par rapport à l'épisode que l'on a enregistré avec Marion Sicot, où on a abordé le sujet du dopage et en l'occurrence le sujet d'une athlète qui s'est dopée, qui est repentie, qui a malheureusement dû se faire attraper et payer sa peine, ou plutôt ses peines, puisque c'était un peu le sujet de la fin de l'épisode, c'est qu'elle nous annonçait que l'Agence française de lutte contre le dopage, donc la FLD, avait fait appel de la première sanction qui lui avait été imposée, qui consistait en une suspension de 2 ans. Donc la FLD a fait appel devant le Conseil d'État et cette sanction de 2 ans s'est transformée en une sanction de 4 ans. Est-ce que jusque-là j'ai tout bon et est-ce que j'ai respecté un petit peu la chronologie des choses?
Tout bon.
Bon, et du coup, tu nous as proposé ton intervention pour nous apporter quelques éclaircissements sur, peut-être déjà, pour rentrer un petit peu plus dans les détails, sur la partie juridique en elle-même, c'est-à-dire quelles sont les instances qui sont entrées en jeu dans le cas de Marion Sicot, ou plus largement dans le cas d'un athlète qui est attrapé pour faute de dopage, et puis quelles sont celles aussi qui sont rentrées en jeu dans cette deuxième partie de l'histoire, en l'occurrence de celle de Marion Sicot.
Oui, tout à fait. Alors, j'avais écouté attentivement cet épisode. Je les écoute tous attentivement, mais celui-là en particulier, et particulièrement la partie sur la sanction de Marion Sicaud. Je vous avais entendu tous les deux émettre des doutes, du moins des étonnements sur cette décision du Conseil d'État qui a porté la sanction de Marion Sicaud de 2 ans à 4 ans. Voilà, tout en relevant tous les deux à plusieurs reprises que vous n'étiez pas juriste et qu'on n'était pas dans un podcast juridique. Donc, ça m'avait interpellé. Cette incompréhension bien, bien légitime de la décision du Conseil d'État, et c'est ça qui m'avait conduit à prendre contact avec vous pour proposer très modestement à mon niveau d'apporter les quelques explications qui pourraient permettre peut-être de mieux comprendre la décision du Conseil d'État. Alors, mieux la comprendre, ça ne veut pas forcément dire être d'accord avec, hein. C'est simplement comprendre, étant précisé que moi je ne connais rien du dossier en lui-même, des faits, et que mon intervention n'a pas du tout pour objet de me prononcer sur l'affaire, de remettre en cause la version de Marion Sicaud. Voilà, c'est simplement donner quelques clés de compréhension aux auditeurs pour que chacun ensuite puisse se faire sa propre opinion, voire décider de ne pas avoir d'opinion, parce que c'est des fois une position qui peut être salutaire.
Ouais, tout à fait. Ouais, parce que tu dis qu'on a eu des étonnements ou des interrogations pendant cet épisode. Donc moi, ce dont je me souviens, c'est que effectivement, déjà Marion Sicaud a pas compris pourquoi la FLD avait attendu si longtemps pour faire recours, quasiment dans les derniers jours, hein, du délai qui était possible. Et puis ensuite, ce qu'elle nous a dit, c'est que pour se défendre devant le Conseil d'État, elle avait dû choisir une avocate qu'elle ne connaissait absolument pas, mais parce qu'il y a très peu d'avocats qui ont le droit d'aller plaider sur les affaires qui sont portées devant le Conseil d'État. Et puis ensuite, qu'elle-même n'a pas pu assister en fait à cette audience et à cette décision. Et donc, elle a un petit peu l'impression qu'elle n'a pas eu de chance de pouvoir se défendre, s'expliquer, un petit peu refaire l'historique. En tout cas, elle n'a pas pu être présente, elle a juste eu la possibilité de prendre acte de ce qui avait été décidé, en fait. Et nous, on s'étonnait un petit peu de ça d'un point de vue complètement extérieur, et comme tu le dis, on n'a pas prétention d'avoir une quelconque connaissance au niveau juridique, et cette fois-ci, on se dit, est-ce que vraiment c'est l'application de la loi, de la manière dont il faut qu'elle se rende, que des gens débattent à huis clos, on n'est pas là, on ne sait pas ce qui se passe, et tout d'un coup, on nous dit, voilà, la décision, c'est ça. Donc c'est un petit peu aussi pour ça qu'on est assez attentif à tes explications aujourd'hui.
Alors, ça tombe bien, c'est ce que j'avais prévu justement de préciser. Peut-être qu'on va commencer par un bref rappel, sans faire un cours de droit, sur ce qu'est le Conseil d'État et un tout petit peu ses fonctions, sa composition, ses attributions. Donc le Conseil d'État, c'est le juge administratif suprême en France. Alors, juge administratif parce que en France, donc, il y a deux ordres de juridiction, l'ordre judiciaire et l'ordre administratif. Les juridictions de l'ordre judiciaire, c'est, si on caricature un petit peu, celui qui s'occupe de toutes les affaires entre personnes privées, donc tribunal judiciaire ou tribunal de commerce, cour d'appel et cour de cassation. Donc si vous avez un litige avec un voisin, si deux commerçants ont un litige dans un contrat de vente, ou dans mon domaine, donc s'il y a un litige sur la construction d'un immeuble par exemple, on ira généralement devant les juridictions de l'ordre judiciaire. À côté de ça, on a les juridictions de l'ordre administratif qui, toujours pour simplifier un petit peu, connaissent de tous les litiges entre les personnes privées et l'administration. Donc ça peut être un recours contre un permis de construire, ça peut être du droit fiscal, ça peut être du contentieux des marchés publics, ça peut être du droit des étrangers, les octrois de titres de séjour par exemple. Voilà, donc c'est vraiment essentiellement les litiges avec l'administration. Et donc là aussi on a 3 degrés de juridiction, donc tribunal administratif, cour administratif d'appel et tout en haut de la chaîne le juge suprême, donc le Conseil d'État. Le Conseil d'État a aussi quelques attributions un peu particulières, et notamment celle de connaître des appels qui sont formés contre les décisions de sanctions qui sont infligées par les autorités publiques, enfin en tout cas certaines autorités publiques indépendantes. Alors les autorités publiques indépendantes, c'est notamment la FLD, et c'est aussi d'autres autorités qui ont un rôle de régulation des différents secteurs. Donc ça peut être la Commission nationale informatique et liberté, la CNIL, en matière par exemple de données personnelles. Ça peut être l'ARCOM en matière de médias, télévision, radio, l'autorité des marchés financiers, la commission de régulation de l'énergie, etc. Il y en a un certain nombre, donc chacun a en charge un secteur particulier, et dans le cadre de cette régulation du secteur qui leur est attribué, ont un pouvoir de sanction, et quand ces organes infligent des sanctions, les appels, la plupart du temps, contre les sanctions, sont formés devant le Conseil d'État. Donc c'est dans ce cadre-là.
Alors, juste pour préciser, ouais. Donc tu dis que ces appels-là sont formés devant le Conseil d'État, c'est-à-dire qu'il n'y a pas la Cour d'appel administrative, ou la Cour administrative d'appel, je ne sais plus dans quel sens c'est en France, ça va directement de la Cour du tribunal administratif qui a émis la sanction au Conseil d'État, c'est ça ?
Alors, c'est presque ça, parce que ce n'est pas le tribunal administratif qui émet la sanction, c'est le comité des sanctions de l'autorité publique indépendante en question. Donc là, pour nous, d'accord. C'est la FLD dispose d'un comité des sanctions qui inflige sa sanction, comme son nom l'indique, et c'est contre cette décision-là qu'on va effectivement directement devant le Conseil d'État. Donc là, on squeeze les deux premiers étages de la juridiction administrative, on ne va pas devant le tribunal administratif, on ne va pas devant la Cour administrative d'appel, on va directement du comité des sanctions au Conseil d'État. Donc c'est ce qui s'est passé ici.
Et c'est finalement ce qui se passe dans toutes les affaires de dopage qui sont jugées en France. Parce que là, on le rappelle, on parle de droit français, on ne parle pas de droit international.
Tout à fait. Alors dans toutes les affaires, pas forcément. En tout cas, dans les cas où une des deux parties n'est pas d'accord avec la décision du comité des sanctions. Et ça permet de préciser que les deux parties, c'est-à-dire soit l'athlète qui est sanctionné, soit la présidente, ou le président, là en ce moment c'est une présidente de la FLD, peut saisir le Conseil d'État pour voir réformer la décision du comité des sanctions. Donc l'athlète, s'il la trouve trop lourde, et présidente de la FLD, s'il la trouve trop clémente. Ce recours, le cas échéant, c'est ce qu'on appelle, toujours un petit point de contentieux administratif, si on peut éduquer les foules et donner aux gens envie de faire du droit, c'est formidable, surtout du droit administratif, parce que ça vient pas spontanément. Donc c'est un recours de plein contentieux, c'est-à-dire que le juge a non seulement le pouvoir d'annuler la décision de sanction, mais aussi de la réécrire et de prononcer sa propre sanction. Ce qui n'est pas le cas de tous les contentieux administratifs, il y en a certains où le juge a seulement le pouvoir d'annuler la décision. Donc c'est pas le cas ici, on est bien dans un cas où le Conseil d'État peut réformer et réécrire la sanction initialement prononcée par le comité des sanctions de la FLD. J'avais relevé que Marion Sicot avait dit que le Conseil d'État jugeait sur des lois. Je le confirme, oui, et heureusement. Donc en l'occurrence, au regard du code du sport, mais juger sur des lois, ça ne veut pas dire juger de façon abstraite simplement en regardant un code. Donc cette procédure-là, devant le Conseil d'État, se fait en droit et en fait. Donc le Conseil d'État réexamine les faits, l'entier dossier de faits dans cette affaire, et détermine au regard des faits et du droit la sanction qui lui paraît appropriée. Donc il faut peut-être déjà préciser que juger sur des lois, oui effectivement, mais ça ne veut pas dire un jugement complètement éthéré et déconnecté de la réalité et des faits du dossier, ou en tout cas des faits tels qu'ils ressortent du dossier.
Peut-être pour précision, est-ce que là, dans le cadre du Conseil d'État, donc qui est amené à juger cet appel qui est fait, en l'occurrence par une administration indépendante, donc par la FLD, est-ce qu'il y a des professionnels du sport, ou est-ce que ça va se baser uniquement, parce que tu dis que le Conseil d'État juge sur les faits et sur le droit, est-ce que ça va se baser uniquement sur la compréhension que peuvent avoir un public non sportif ou non spécialiste de ces sujets du droit du sport au regard du cas concerné?
Alors, je vais revenir sur ce point-là dans quelques instants, parce que j'avais aussi relevé effectivement cet étonnement face à une justice non sportive. J'en redis un mot dans un instant, si tu veux bien, et je finis juste sur les premières questions que vous aviez posées sur la procédure devant le Conseil d'État, le fait qu'on n'aurait pas entendu l'intéressé, et que la procédure se serait déroulée de façon un peu opaque. Alors la première chose sur le choix de l'avocat, effectivement, comme on est en France, on aime bien le système un peu corporatiste, et seulement certains avocats, en effet, sont habilités à intervenir devant les juridictions suprêmes, donc devant la Cour de cassation et devant le Conseil d'État. Il faut un niveau de compétence particulier, ça c'est tout à fait normal, mais il faut aussi obtenir une charge délivrée par, par l'État, qui sont délivrées en nombre limité, donc ce qui fait qu'il n'y a qu'un nombre limité de cabinets d'avocats au Conseil en France. Marion Sicot dit qu'il y en avait une centaine, je crois que c'est effectivement à peu près ça. Donc c'est vrai que ça limite le choix par rapport à si on est devant une juridiction ordinaire, du premier ou du second degré. Pour autant, là, je constate qu'en l'espèce, elle n'a pas choisi les plus mauvais, hein, loin de là, puisque donc le nom du cabinet d'avocat apparaît dans la décision du Conseil d'État. Voilà, elle est loin d'avoir pris les plus mauvais de la place. C'est un cabinet qui a une certaine ancienneté, une certaine réputation, donc je ne doute pas qu'elle ait eu affaire à des conseils tout à fait compétents. Ceci dit, je suis étonné, comme vous, qu'elle affirme n'avoir jamais eu aucune information sur la façon dont elle était défendue et sur ce qu'on avait, sur ce que son avocat avait pu écrire ou plaider. Là encore, conformément à ce que je disais en introduction, je ne sais pas comment ça s'est déroulé en l'espèce, mais un avocat n'est quand même jamais censé déposer un mémoire en défense sans avoir consulté son client au préalable. Donc là, qu'un cabinet quand même réputé et compétent ait pu déposer un mémoire en défense devant le Conseil d'État sans en avoir soumis le projet préalablement à sa cliente, serait pour le moins étonnant.
Sur la partie administrative, Marion nous disait qu'elle était étonnée ou elle se posait la question du fait que cet appel soit intervenu quasiment à la fin du délai légal. Il me semblait que sur d'autres types de juridictions, le délai pour interjeter appel était assez court. On parle de quelques jours, voire quelques semaines. Là, en l'occurrence, c'était plusieurs années. Enfin, est-ce que c'est typique à ce type de procédure ?
Alors, plusieurs années, je ne pense pas que ce soit le cas ici. Hein. Pour moi, en tout cas, sur le principe, des appels qui sont rejeté le dernier jour, je suis assez bien placé pour savoir que c'est monnaie courante et que ça ne dénote rien d'autre que parfois une indécision du client, parfois un certain délai simplement mis par la partie appelante pour mettre ses affaires en ordre, rédiger sa requête d'appel et introduire l'appel. Donc, ça moi des décisions, enfin des appels qui sont formés le dernier jour. Je ne veux pas dire que c'est dans tous les dossiers, mais c'est quasiment la norme.
Il y avait aussi des conditions particulières. Hein, le jugement qui a été rendu extrêmement lentement, notamment parce que c'est arrivé en plein Covid. Et donc du coup, est-ce que ça... Bon, après, entre 2021 et 2022, il n'y a plus vraiment de raison que le Covid justifie un doublement du délai. Mais à la limite, c'est quelque chose, en tout cas, qui a rallongé la procédure envers Marion. Et c'est vrai que tout ça, mis bout à bout, elle avait déjà purgé une bonne partie de ces deux premières années de suspension avant que l'appel prenne effet, puisque la suspension qui avait été prononcée de 2 ans, si je m'abuse pas, elle a été purgée à partir du moment où il y a eu le contrôle positif.
C'est ça, parce qu'elle a été suspendue, voilà. En fait, à titre de mémoire, hein, elle a été suspendue à titre conservatoire, donc non pas par le comité des sanctions, par la commission pardon, des sanctions, mais directement par la présidente de la FLD. Et la durée de cette suspension à titre conservatoire a été ensuite déduite, heureusement, de la durée de suspension définitive qui a été prononcée par la commission des sanctions. Donc en effet, de fait, la durée a commencé quasiment au moment du contrôle positif.
Oui. Ouais, c'est ça. Puis au moment où la décision de la suspendre 2 ans a été rendue, elle avait déjà purgé avec l'histoire de Covid, les prolongations et tout ça, quasiment 1 année et demie. Et donc du coup, voilà, elle se disait, bon, bah, maintenant c'est 2 ans, mais j'ai déjà 1 année et demie de bon, entre guillemets. Donc du coup, dans 6 mois, c'est bon. Et puis, bah, voilà, il y a cet appel, appel qui dure 4 mois, enfin l'appel qui est survenu presque 4 mois après la décision de suspension de 2 ans. Et là, on arrive au Conseil Conseil d'État, et puis du coup la peine a changé.
C'est ça. Ouais, juste pour finir sur la procédure et sa supposée opacité, en deux mots, les parties font valoir leurs observations par des mémoires écrits. En général, il y a un premier mémoire qui est déposé par l'appelan, qui est communiqué évidemment à la partie adverse, qui dispose d'un certain délai plus ou moins impératif pour répondre, là aussi par écrit, et en général, il y a un deuxième jeu d'échange au regard de ce premier contradictoire. En général, devant le Conseil d'État, on s'arrête à ce deuxième échange. Donc l'instruction est entièrement écrite par cet échange de mémoire, et une fois que l'affaire, on va dire que le débat écrit est épuisé, que l'affaire est donc en état d'être jugée, le dossier est affecté à un rapporteur, donc le magistrat qui est chargé d'examiner véritablement au fond et en profondeur le dossier, donc le droit applicable et l'examen des faits. Et de se faire une idée sur la question, de préparer un pré-projet de décision. Parallèlement, le dossier est aussi affecté à un rapporteur public cette fois. Donc on a un rapporteur d'un côté qui est un membre de la formation de jugement qui est composée de trois juges, trois conseillers d'État, et à côté le rapporteur public qui est un magistrat aussi mais qui ne fait pas partie de la formation de jugement, donc qui ne va pas avoir voix délibérative ni même consultative d'ailleurs au moment de prendre la décision.
Alors, le rapporteur public, à quoi il sert ?
Alors, bah, il sert qui fait le même travail dans un premier temps que le rapporteur, c'est-à-dire examiner le dossier en droit, en fait, et se faire une idée sur la solution applicable. Et il va rédiger, au regard de son instruction du dossier, ce qu'on appelle des conclusions, donc qui récapitule tout le raisonnement en droit et en fait toute son appréciation du dossier. Et ces conclusions vont être lues publiquement lors de l'audience publique devant le Conseil d'État. Et c'est important parce que justement, là en l'occurrence, je me suis procuré les conclusions du rapporteur public sur l'affaire qui nous intéresse, et je vous en dirai un mot tout à l'heure, ça me paraît assez éclairant sur le raisonnement qui a été suivi. Donc, le jour de l'audience, parce qu'il y a bien une audience devant le Conseil d'État, le président de la formation de jugement rappelle rapidement la procédure, l'historique de l'affaire, donne ensuite la parole au rapporteur public, qui lit ses conclusions publiquement, ça peut durer plus ou moins longtemps, et la parole est ensuite donnée aux avocats des deux parties. Donc d'abord l'appelant, et ensuite l'intimé, comme on l'appelle, donc le défendeur, donc en l'occurrence l'avocat de Marion Sicot aura eu ici la parole en dernier. Donc les avocats des parties ont bien la parole devant le Conseil d'État. Les parties elles-mêmes, en principe, non. C'est pas comme ça que se déroule la procédure devant les juridictions administratives, même si on a aujourd'hui une certaine inflexion où on entend un petit peu plus les parties directement lorsque leurs observations peuvent aider la juridiction à mieux comprendre l'affaire et à rendre une meilleure décision. Mais pour l'instant, c'est toujours pas la norme. Et clairement, dans l'affaire qui nous intéresse ici, les parties n'ont pas été entendues. Donc ni Marion Sicot, ni la présidente de l'agence de lutte contre le dopage, ce sont seulement leurs avocats qui auront pris la parole à l'audience pour faire valoir leurs observations. Voilà, et puis ensuite l'affaire est mise en délibéré, comme on dit, et les trois membres de la formation de jugement se retrouvent à huis clos, donc sans le rapporteur public, mais éclairés par ses conclusions, et puis éclairés aussi par le travail du rapporteur, pas public celui-là. Et c'est compliqué. Et au regard de tout ça, se mettre d'accord sur la rédaction d'une décision qui est rendue quelques semaines après l'audience publique.
Ouais, donc on n'est pas dans un film à l'américaine où on a des jurés qui prennent une décision et après un juge qui rend un jugement. Là, on est vraiment sur une administration, même s'il y a bien des plaidoiries, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit, mais si l'affaire est bien plaise devant le tribunal, chacune des parties s'exprime par la voix de son avocat. on l'aura compris, parfois les parties s'expriment elles-mêmes, mais c'est plutôt rare. Et ensuite, la formation de jugement, donc l'ensemble des trois juges, se retrouve à huis clos pour délibérer et rendre la décision.
Exactement.
Et donc, dans toutes ces personnes qui vont délibérer et prendre la décision, il n'y a personne qui est expert du domaine en question. Et en l'occurrence, dans le cas qui nous intéresse, il n'y a aucun expert en droit du sport, il n'y a aucun expert du milieu du dopage ou ce genre de choses.
Alors, fais attention à ce que tu dis. Je pense que Thomas réservait le droit de répondre à cette question dans un second temps et qu'il va nous apporter des précisions.
Justement, j'y reviens. J'y reviens puisqu'effectivement, Marion Sicot, dans votre podcast, disait que le Conseil d'État n'était pas une justice sportive. Alors c'est vrai, resterait peut-être à définir ce que c'est qu'une justice sportive, parce que avant de répondre à la question de Grégory, on peut peut-être revenir justement à la composition de la commission des sanctions de la FLD, commission des sanctions qui est composée de 12 membres, et parmi ces 12 membres, il n'y en a que 2 qui sont qualifiés dans le domaine du sport. Cette commission, elle est composée de 4 magistrats, donc 2 du Conseil d'État, 2 de la Cour de cassation, de 4 personnalités compétentes en pharmacologie, toxicologie et médecine du sport, donc médecins, hospitaliers, docteurs en pharmacie, 2 personnalités qualifiées dans le domaine du sport, nous y voilà, donc ces 2 personnalités qui siègent en ce moment à la commission des sanctions de la FLD, c'est un avocat et un membre de la commission des athlètes de haut niveau du Comité national olympique et sportif français. Et enfin, 2 personnalités compétentes en médecine vétérinaire. Alors, j'ai été un petit peu surpris d'apprendre ça, peut-être parce que quand on a des remèdes de cheval, c'est bien d'avoir un médecin vétérinaire pour se prononcer sur la question. Donc on voit non,
je pense aussi que parfois le dopage qui est jugé au niveau de la FLD, ça peut aussi concerner du dopage de certains animaux qui interviennent dans la pratique sportive.
C'est possible, oui, en particulier les chevaux, je pense, soit sur les courses, ils sont présents aux Jeux Olympiques et j'imagine qu'il y a des cas qui se présentent.
C'est très, très possible, oui. Ouais, donc quand on voit déjà cette composition de la commission des sanctions de la FLD, on voit que les sportifs ne sont pas si représentés que ça et c'est pas comme si le sportif était jugé par ses pairs. Là, des sportifs en tout et pour tout, sur 12, il y en a un. Alors, j'en viens, croyez pas que j'essayais d'éluder, parce qu'on sait que les avocats, ça commence à se lancer dans des longs développements pour faire oublier la question qu'on leur a posée et qui les aurait dérangés, mais non, pas du tout. Ce n'était qu'une simple digression.
De toute façon, tout est enregistré, donc on serait revenu dessus. Hein.
Donc, le Conseil d'État, la section du contentieux du Conseil d'État est divisée en sous-sections. Chaque sous-section est spécialisée dans un certain nombre de matières, histoire que les juges aient l'habitude de traiter un certain type de dossier et acquièrent une meilleure connaissance de ce domaine et de meilleurs réflexes et puissent rendre de meilleures décisions.
Juste avant que tu nous apportes une précision complémentaire, j'espère que ce ne sont pas des magistrats spécialisés dans le dopage, parce que sinon ça voudrait dire qu'on a quand même énormément de cas en France et j'espère que ce n'est pas le cas.
Non, en fait il y a très peu de décisions du Conseil d'État hein, sur la question du dopage. Donc non, ils ne sont pas spécialisés en dopage, ils sont spécialisés en droit du sport, mais je crois que c'est un domaine très vaste et sans doute de plus en plus. De plus en plus réglementé et donc donnant de plus en plus lieu à contentieux pour le plus grand bonheur des avocats. Donc cette sous-section qui a connu là de l'affaire de Marion Sicot, c'est la 2e sous-section du Conseil d'État et qui est spécialisée notamment en droit du sport. Donc tous les dossiers du Conseil d'État qui concernent le droit du sport sont affectés à cette sous-section-là. Donc ils ont quand même une certaine pratique, certes qui reste théorique et dans l'enceinte du Palais Royal, mais quand même, du droit du sport. Je relève aussi que la présidente de cette sous-section, qui s'appelle Christine Mauguet, qui est présidente adjointe de la section du contentieux du Conseil d'État, exerce aussi les fonctions de médiateur au Comité national olympique français depuis 2015, et elle est membre du Comité d'éthique et déontologie de la Fédé de rugby depuis 2017. Donc c'est quand même quelqu'un qui baigne un petit peu dans le monde du sport. Depuis quelques temps. Donc, je ne sais pas si elle est sportive, peut-être. En tout cas, elle n'est pas sportive de haut niveau. Mais voilà, c'est pas une justice sportive. Encore une fois, je ne sais pas ce que c'est. Mais pour autant, on n'a pas pris 3 pimpins qui font du droit fiscal à longueur de journée et qui n'ont aucune idée de quoi on parle. Donc, il y a quand même une volonté, une préoccupation de prendre des gens qui sont spécialisés dans ce genre d'affaires et qui sont quand même des gens plutôt intelligents et qui comprennent assez rapidement de quoi on leur parle. Donc je suis pas sûr qu'il faille avoir des performances à vélo particulièrement remarquables pour faire un bon juge du sport au sein du Conseil d'État.
Très probablement que c'est pas ça que Marion Sicot remettait en cause, hein, et que nous nous étonnait quand on entendait ses propres propos à propos de ça. On avait effectivement plus l'impression, quand elle nous en parlait, qu'elle avait compris que c'était plutôt des gens qui avaient affaire à du droit fiscal, du droit immobilier, et tout d'un coup on lui dit y a une athlète qui a été dopée, il faut prendre une décision. Maintenant, ce que tu nous dis par rapport à notre vision de la justice qu'on avait à la sortie de cet épisode nous rassure quand même un petit peu, en se disant, voilà, c'est quand même pas des gens pour qui toutes ces décisions-là sont complètement étrangères. Et voilà, c'est plutôt bon signe pour une justice plutôt équitable et qui fonctionne correctement, quoi.
Ouais. Oui, tout à fait. Je crois qu'on peut être rassuré autant que faire se peut sur la compétence des trois juges qui ont connu de cette affaire. Enfin, quatre si on compte le rapporteur public. Toujours dans l'idée de vous rassurer, c'est pas l'objet. Je suis pas là pour faire la retape pour le Conseil d'État qui ne m'a donné aucun chèque.
Et non, mais en tout cas, c'est super intéressant de pouvoir échanger sur ces sujets-là et d'avoir plus de précision et d'éclaircissement. Ça remet dans le contexte et puis ça permet de voir aussi, contrairement à ce que font certains médias, que on n'est pas là pour faire du sensationnel, mais on est là aussi pour informer les gens. Déjà, parce qu'on parle du dopage, des méfaits ou des problèmes que peuvent engendrer le dopage, mais aussi de les informer de ce qui risque de se passer, que ce soit si certains sont tentés par l'idée ou s'ils entendent parler de certaines personnes qui pourraient l'être. Voilà, ça permet de connaître aussi tous les tenants et les aboutissants et de se dire que finalement, si un jour on devait se faire attraper et se faire juger, on serait pas forcément jugé, comme tu dis, par trois fiscalistes qu'on a mis là sur une table et à qui on a dit « Tiens, il faut donner un avis sur le bout de papier sur lequel on t'a raconté une histoire. »
Surtout les fiscalistes, c'est les pires. Si encore ils faisaient autre chose, mais non, si c'est des fiscalistes, vous êtes foutus.
Bon, j'espère qu'il n'y a pas beaucoup de fiscalistes qui nous écoutent. Ouais, je t'ai coupé, excuse-moi.
Oui, donc pour continuer dans un petit peu dans les coulisses, ou en tout cas comment ça marche un petit peu le Conseil d'État et les conseillers d'État, j'avais relevé aussi que Marion Sicot dans le podcast s'inquiétait d'être peut-être partie perdante, être partie en étant déjà perdue d'avance en raison d'un soupçon de sa part d'un défaut d'impartialité de la part du Conseil d'État, au motif que la présidente de la FLD est elle-même conseillère d'État. Ce qui est tout à fait juste, même si la présidente en question est à la retraite du Conseil d'État depuis 2019, il me semble, mais elle est ancienne conseillère d'État.
Alors on précise, hein, ce qui est juste, c'est le fait qu'elle est ancienne conseillère d'État,
oui,
c'est pas qu'elle est partielle
pas qu'elle...
ou impartiale.
elle est partielle, puisque de toute façon c'est elle qui a fait appel, donc elle est partie à la procédure, donc de fait elle est partielle. Le problème c'était la partialité ou non des juges qui ont statué sur l'affaire. Toujours comme on est en France, on porte une grande attention au grand corps, donc l'inspection générale des finances d'un côté et le Conseil d'État de l'autre, et surtout le Conseil d'État. Et les conseillers d'État circulent pas mal dans la haute administration, donc vont aller au secrétariat général du gouvernement, peuvent se retrouver dans les cabinets ministériels, évidemment en juridiction au Conseil d'État, et peuvent aussi être affectés à la présidence d'autorité publique administrative, comme ça a été le cas ici. Donc c'est un fait que ça circule beaucoup du Conseil d'État, qui est un petit peu le vaisseau amiral, la maison mère, et qui envoie ses membres un petit peu partout dans la haute administration publique. Cette situation s'accompagne d'un esprit de corps certain au sein du Conseil d'État, qui est reconnu, je crois, par les membres eux-mêmes. Donc il y a un esprit de corps entre conseillers d'État, mais un esprit de corps, ça ne veut pas dire que le Conseil d'État va statuer dans un certain sens, ou se sent tenu de statuer dans un certain sens, au simple motif que la présidente de la FLD, qui est auteur de l'appel dans l'affaire, vient à l'origine du Conseil d'État. La crainte n'est pas illégitime. Je comprends bien l'impression qu'a pu avoir Marion Sicot, et l'impression elle est pas bonne, puisque ce mélange des genres un petit peu, hein, entre le conseiller d'État juge et le conseiller d'État administrateur qui circule un petit peu dans les hautes sphères de l'administration, donne effectivement une impression de manque d'impartialité, ce qu'on appelle l'impartialité objective, qu'on résume parfois par l'expression « il ne s'agit pas seulement que la justice soit faite, il faut aussi qu'on voit qu'elle soit faite ». Et si on a l'impression, par des indices comme ça, ou des faux-semblants, que le juge est complice, enfin, complice est peut-être un peu fort, mais en tout cas de mèche, ou de connivence, ou complaisant avec l'administration, du fait de l'appartenance à un même corps, c'est un mauvais signal qu'il faudrait probablement chercher à corriger. Pour autant, l'apparence est une chose, la réalité en est une autre. Et peut-être que la meilleure façon de rectifier cette impression, c'est de rappeler qu'au sein de la commission des sanctions de la FLD, il y a deux conseillers d'État. Donc de toute façon, quand le conseil d'État juge l'affaire Marion Sicot, soit il désavoue, la présidente de la FLD qui a fait appel, soit il désavoue les deux conseillers d'État qui siègent au sein de la commission des sanctions. Donc vous voyez, les conseillers d'État, on en retrouve un petit peu partout, et en tout cas des deux côtés de cette affaire. Je vois pas la formation de jugement du conseil d'État dire « Ah bah oui, on va faire droit à l'appel de la présidente de la FLD parce qu'elle est du conseil d'État ». Et puis pendant ce temps-là, on désavoue les deux collègues qui sont au sein de la commission des sanctions. Je suis pas dans les arcanes de cette affaire, mais encore une fois, si l'impression est regrettable, je pense vraiment pas que ça corresponde à la réalité. J'ai essayé d'étayer un petit peu cette impression en regardant les décisions qui avaient été rendues par le Conseil d'État sur saisine de la présidente de la FLD. C'est-à-dire lorsque la présidente de la FLD considère que la sanction infligée par la commission des sanctions est trop clémente et saisit donc le Conseil d'État pour l'avoir aggravée, j'ai vu que, alors déjà les affaires sont rares, hein, sauf erreur de ma part, il n'y a eu que 5 décisions dans une telle configuration depuis 2020. Et sur ces 5 affaires, donc le Conseil d'État a donné raison à la présidente de la FLD à 4 reprises en aggravant la sanction et a rejeté une fois sa demande d'aggravation de la sanction. Donc effectivement, c'est une tendance qui est plutôt favorable à la présidente de la FLD. Pour autant, ça ne veut pas dire que le Conseil d'État est partial.
Ouais, je voulais juste préciser dans ton raisonnement, peut-être que certains ne l'auront pas forcément compris, c'est-à-dire que Marion Sicot, en l'espèce, puisqu'on parle d'elle, on parle de son cas, a été soumise à un contrôle antidopage qui s'est révélé positif, donc elle a été jugée par la commission des sanctions de la FLD, donc de l'autorité de lutte contre l'autorité de lutte contre le dopage en France. Dans cette commission des sanctions, il y a 2 membres du Conseil d'État. En revanche, c'est la présidente de la FLD, de l'Agence de lutte française contre le dopage, qui a fait appel auprès du Conseil d'État de cette décision. Donc, c'est-à-dire que une autre membre du Conseil d'État fait appel de la décision qui a été rendue par la commission des sanctions parce qu'elle estime qu'elle est trop clémente. Donc je voulais juste repréciser la partie de ton raisonnement, c'est-à-dire que c'est pas c'est un peu la FLD contre la FLD, parce que c'est la présidente de la FLD contre la commission de sanctions de la FLD. Et dans tous les cas, il y a des conseillers de la Cour d'État, du Conseil d'État, dans les deux administrations, enfin dans les deux sections de cette administration. Et donc dans tous les cas, le Conseil d'État aurait forcément cassé l'une ou l'autre des décisions d'un des membres du Conseil d'État. On est d'accord.
Ben par contre, l'autre question qui serait intéressante, mais je ne sais pas si on a les chiffres, en tout cas moi je ne les ai pas, et je ne sais pas vraiment comment les trouver, mais tu nous dis que donc dans 4 cas sur 5 où la FLD a porté devant le Conseil d'État un recours contre la décision de la commission des sanctions, la sanction a été aggravée, donc c'est quand même 80% des cas, hein, c'est quand même conséquent. Mais par contre, dans quel pourcentage des cas est-ce que on porte justement devant le Conseil d'État, et dans quel pourcentage des cas on se satisfait de la décision de la commission de sanctions? Parce qu'on se dit, si dans 100% des cas où il y a une sanction qui est donnée par la commission de sanctions, on la porte devant le Conseil d'État, est-ce que vraiment la commission de sanctions a encore un sens?
Alors, j'ai J'ai pas les chiffres, ça pourrait se trouver en comparant le nombre de décisions de la commission des sanctions qui, je crois, peut se retrouver de façon un peu fastidieuse sur le site de la FSD, mais ça doit pouvoir se trouver, et en comparant ça au nombre d'affaires dans lesquelles le Conseil d'État a été saisi. Parce que la plupart des saisines du Conseil d'État dans les affaires de dopage, c'est l'athlète qui considère que la sanction a été trop lourde et qui demande sa réduction ou son annulation. Donc si on comparait ces deux chiffres-là, on pourrait répondre précisément à ta question. En pratique, j'ai l'impression que le taux d'appel devant le Conseil d'État reste relativement faible. J'ai pas fait le décompte, hein, mais voilà, j'ai fait une rapide recherche sur, sur la jurisprudence du Conseil d'État sur les questions de dopage, et il n'y a pas des tonnes d'arrêts non plus, quoi. Alors que sur le site de la FLD, il y a quand même beaucoup de décisions.
Ok, donc ça veut dire que globalement, dans la plupart des situations, la commission de sanction de la FLD, elle fait le boulot, on est satisfait de la décision qui est rendue, et puis on ne fait pas appel. Le cas Marion Seiko était quand même une certaine exception dans le type de procédure qui a été engagée, quoi.
Et question là aussi purement administrative, si le dernier jour de la durée qui est allouée pour interjeter appel, pour faire appel, eh bien la présidente de la FLD faisait appel et aussi Marion Seiko parce qu'elle estimait que la décision était trop dure, comment ça se passe? Est-ce que c'est possible et comment ça se passe? Enfin, c'est possible, j'imagine que c'est possible que chacune des parties forme appel, mais comment ça se passe?
Oui, c'est tout à fait possible, et on peut même d'ailleurs faire un appel en cours de procédure, c'est-à-dire un appel incident. C'est le cas lorsque une des deux parties, a priori, était partie pour se contenter de la décision, et puis comme l'autre partie finalement fait appel, la partie intimée se dit, si c'est comme ça, de toute façon, puisqu'on est parti pour tout remettre en jeu, moi aussi je fais appel, donc appel incident, un appel sur l'appel, et je demande la réformation de la décision, parce que j'étais prêt à m'en contenter, mais puisque vous voulez jouer à ça, ok, on discute tout. Donc oui, ça aurait été tout à fait possible que les deux appels que deux appels soient formés en même temps, et bon, en pratique, je pense que les deux affaires auraient été jointes, et que les deux questions, l'aggravation et la réduction, auraient été examinées en même temps.
A priori, dans le cas qui nous intéresse, hein, Marion avait clairement dit qu'elle comprenait qu'il y ait une décision qui a été prise de suspension de 2 ans contre elle. Elle n'avait pas l'intention de faire appel parce qu'elle était prête à payer en fait le prix de sa décision et de son acte. Mais par contre, voilà, ce qu'elle ne comprenait pas, c'était pourquoi est-ce que la présidente avait fait appel pour aggraver cette sanction-là. Évidemment, elle n'avait pas envie de prendre une sanction plus lourde parce qu'elle a dit les 2 ans avec les circonstances atténuantes qu'elle nous a expliqué dans les podcasts qu'on a enregistrés avec elle, elle trouvait ça relativement juste par rapport à l'erreur qu'elle avait faite, elle était d'accord de payer ça, mais donc du coup elle n'avait pas de raison elle-même de faire appel de cette décision. En tout cas c'est complexe, c'est intéressant comme développement, mais ça permet de vraiment bien mieux mettre en lumière ce qui s'est passé, parce que c'est vrai qu'on a pu rester à la fin de l'épisode qu'on avait enregistré avec Marion sur des choses assez floues, hein, dans cette procédure et puis dans la manière dont ça avait été mené. C'est vrai que Marion, elle est comme nous, elle n'a aucune connaissance spécifique juridique, elle a été balancée là-dedans un petit peu malgré elle et la conséquence de son acte. Et puis, elle n'est pas mieux armée que Hermano et moi pour comprendre ce qui lui arrivait, ce qui déferlait sur elle. Et c'est vrai que mettre en lumière avec toi, Thomas, qui connaît bien ces aspects-là, c'est tout de suite un peu plus limpide et un peu plus clair. Et puis d'un certain côté, en tout cas pour moi, c'est plus rassurant de savoir que même si tu le dis, il y a quand même des interconnexions entre personnes qui peuvent éventuellement se connaître et s'être côtoyées dans une fonction au Conseil d'État, il y a quand même un système qui est mis en place pour que ce soit le plus impartial possible.
Tant mieux si c'est déjà un peu plus clair, mais c'est sûr que quand on n'est pas un peu rompu à l'exercice quasi quotidien de la chose, et surtout quand on est un particulier sans moyens spéciaux, et qu'on se retrouve jeté dans la machine à laver et l'engrenage judiciaire, on peut vite y perdre pied et plus du tout savoir où on en est. Surtout quand on est concerné de façon aussi grave et directe que c'est le cas ici pour Marion Seiko.
Bon, je prendrai ton numéro en off, j'aurai des questions à te poser. et tout à l'heure, pendant cette première partie de l'épisode, tu me disais que tu avais jeté un œil justement à la décision et que tu avais aussi peut-être quelques remarques ou quelques précisions à apporter. Je t'en prie, dis-nous un petit peu ce que tu avais en tête.
Ah bah, superbe transition. Alors juste un rappel sur ce que dit d'abord la loi, puisqu'on a dit que le Conseil d'État jugeait évidemment au regard de la loi et en l'espèce du code du sport. Donc on ne revient pas hein, sur la définition des produits dopants, puisque là c'est pas en question, le PO c'est un produit dopant, il n'y a pas de débat. Le principe, ce que dit le code du sport, c'est que la suspension de principe par défaut c'est 4 ans. Donc il n'y a pas de motivation spéciale à apporter, de justification spéciale à chercher, c'est 4 ans. Sauf, parce qu'on est en droit, il y a un principe, et un principe, il y a toujours des exceptions, et si on a un peu de chance, il y a des exceptions aux exceptions.
C'est ce qu'on dit, c'est la fameuse exception qui confirme la règle, c'est ça ?
Ouais, sauf si elle est elle-même confirmée par des exceptions. Donc principe égale 4 ans de suspension, sauf par exception qui peut être réduite à 2 ans, et je cite, « lorsque le sportif démontre qu'il n'a pas eu l'intention de commettre ce manquement ». Donc, c'est pas le cas ici, Marion Sicot a toujours reconnu qu'elle avait eu l'intention de se doper, mais pour les raisons particulières qu'elle a évoquées. Donc, ce premier cas de réduction de la sanction à 2 ans n'est ici pas rempli, c'est pas en débat. Deuxième exception au principe, la durée de 4 ans, je cite toujours, peut être réduite par une décision spécialement motivée lorsque les circonstances particulières de l'affaire le justifient au regard du principe de proportionnalité. Donc les choses, bah, tout est un peu important hein, là-dedans, c'est décision spécialement motivée, c'est-à-dire que la commission des sanctions doit, le cas échéant, spécialement expliquer, motiver pourquoi elle ne retient pas la durée de 4 ans et pourquoi elle réduit cette durée. Elle doit le motiver au regard de circonstances particulières. Donc particulière, ça ne veut pas dire exceptionnel, mais ça veut dire quand même qu'il faut un certain degré de conséquence, de tangibilité pour considérer qu'elles sont effectivement particulières et justifient une dérogation au principe. Et enfin, ce qui doit guider tant la commission des sanctions que ensuite le Conseil d'État, c'est le principe de proportionnalité, la proportionnalité de la sanction, qui est un principe à la base de droit pénal, mais qui s'applique ensuite dans tout le droit disciplinaire, notamment aux sanctions des sportifs.
Donc, quand tu parles de proportionnalité, c'est-à-dire que un Lance Armstrong qui s'est a priori dopé pendant des dizaines d'années, lui prendrait que 4 ans, et Marion Sicot qui nous dit n'avoir fauté qu'une fois, elle prendrait aussi 4 ans, et donc ça pourrait éventuellement être réduit à 2 ans. Est-ce que j'ai bien compris ?
Alors évidemment le cas est vache. Alors déjà je peux botter en touche facilement en disant Lance Armstrong ne relève pas de la juridiction de la compétence de la FLD parce que comme ça, j'ai
parce
vu la question.
Parce qu'il n'est pas français.
Voilà. Okay. Mais en pratique...
Objection, maître, s'il vous plaît, répondez à la question.
ça ne marche pas. En pratique, non, j'aurais peur de dire une bêtise. Il est possible qu'il y ait ce qu'on pourrait appeler des circonstances aggravantes. Donc, quand on y met un tel acharnement comme l'excellent Lance, il est possible qu'on puisse avoir droit à un peu plus que le principe des 4 ans. Mais voilà, là, j'ai pas préparé cette partie-là de l'interro, donc je vous dirai des bêtises, donc je ne dirai rien.
Mais en fait, si on reprend un peu plus sérieusement les termes que tu as donnés, ça peut être un peu tout et n'importe quoi qui rentre dans ces clauses-là, et donc du coup, ça dépend aussi un petit peu de la sensibilité des juges. Quelles sont des circonstances qui peuvent être atténuantes voilà, après, est-ce que le harcèlement moral dont elle a fait preuve, est-ce que ça n'aurait pas pu rentrer dans ce genre de cas de figure ? Est-ce que c'était clairement pas possible que ça rentre dans ces cas de figure ou alors, est-ce que c'est quelque chose qui aurait pu être discutable ?
On y vient, et je vais vous dire ce qu'a considéré, puisque c'est là où on a les explications les plus détaillées sur le raisonnement qui a été suivi, en tout cas par le rapporteur public. Le raisonnement du rapporteur public n'est pas forcément celui de la formation de jugement, mais dans la plupart des cas, et j'ai l'impression que c'est le cas ici, ils sont en ligne. Donc les conclusions du rapporteur public, je vous les aurais volontiers transmises d'ailleurs pour que vous puissiez les mettre en lien sous l'épisode, mais c'est un texte qui n'est pas libre de droit, qui relève de la propriété intellectuelle du rapporteur public qui a prononcé les conclusions, donc je vais vous en lire des extraits un petit peu larges, mais voilà, malheureusement je ne pourrais pas vous transmettre le fichier, je ne veux pas d'ennui avec le Conseil d'État. Tout impartial,
ce qui est tout à fait compréhensible.
Alors, le rapporteur public, dans ses conclusions, relève que la commission des sanctions de la FLD a commis deux erreurs dans les circonstances, les faits qu'il a retenus pour justifier la réduction de la durée de la sanction à seulement, entre guillemets, 2 ans. La première erreur, c'est que la commission des sanctions a retenu que Marion Sicot aurait été mise à l'écart de l'équipe après avoir cessé d'envoyer les photos d'elle dénudées qui auraient été exigées par son directeur sportif. Je ne refais pas tout l'historique du dossier, hein, peut-être que les gens retourneront écouter l'épisode en question pour savoir exactement de quoi on parle, mais c'était le nœud même du problème. Et le rapporteur public écrit ici « Les envois réguliers de ces photos cessent en réalité à 2 reprises, puisqu'ils ne sont attestés qu'en octobre et novembre 2018, puis en mars et avril 2019. Or, jusqu'en septembre 2019, Madame S, puisque c'est anonymisé, participe pour son équipe à de nombreuses compétitions, certaines prestigieuses, dont celle où a eu lieu le contrôle positif. L'intéressé le reconnaît d'ailleurs. » Donc, première erreur de la commission des sanctions, c'est l'arrêt de l'envoi des photos a entraîné une mise à l'écart, alors qu'en pratique, non, ce qui ne semble pas contesté. Deuxième erreur, ou en tout cas approximation, c'est pour ce qui concerne le nombre d'injections. Donc, Marion Sicot, dans le podcast et dans l'ensemble de ses interventions que j'ai pu lire ou m'entendre, affirmait qu'elle avait procédé à une injection unique de PO. Voici ce que dit le rapporteur public sur la question. L'avis du département des analyses de l'agence, donc la FLD, estime plus probable que le profil identifié dans les échantillons corresponde à au moins 2 administrations successives espacées de quelques jours. Donc ici, le rapporteur public reproche à la commission des sanctions d'avoir fait sienne un petit peu trop rapidement la version de Marion Sicot, alors que, selon le labo de la FLD, on était plutôt à 2 injections, et qu'il aurait fallu, en tout cas, s'expliquer davantage sur ce point-là. Ça va jusque-là, vous avez des...
Non, ça va, on suit.
Donc une fois pointées ces 2 erreurs, le rapporteur public précise que ce qu'il faut, au fond, c'est en revenir, je cite, à la question de l'existence de circonstances particulières au sens de l'article machin du Code du sport. Il continue, il dit « La possibilité de prendre en compte ces circonstances particulières au regard du principe de proportionnalité assure l'indispensable conformité de la procédure de sanction à l'exigence constitutionnelle d'individualisation des peines. Il s'agit de circonstances particulières, ce qui suppose
qu'un certain... À tes souhaits, oui. Il faudra que tu nous fasses une explication de texte. Hein.
Ouais. Il redit ce que j'ai dit tout à l'heure. Il s'agit de circonstances particulières, ce qui suppose qu'un certain seuil qu'on pourrait appeler de caractérisation soit atteint, mais pas de circonstances exceptionnelles. Donc, les circonstances particulières, au regard du principe de proportionnalité... doit assurer l'indispensable conformité de la procédure de sanction à l'exigence constitutionnelle d'individualisation des peines. Ça pourrait être un sujet d'examen, ça. On met ça comme ça, commentaire de texte, vous avez 4 heures. Mais ça, en fait, c'est... on peut le dire beaucoup plus simplement, et ça répond peut-être à un autre point qui, me semble-t-il, avait été soulevé par Marion Sicot dans votre podcast, c'est-à-dire que le Conseil d'État ne se serait pas, ça rejoint aussi un peu vos précédentes questions, ne se serait pas intéressé à cette individualisation des peines et à la proportionnalité de la sanction, et aurait simplement appliqué le principe des 4 ans. Donc on voit ici que, bien au contraire, le principe d'individualisation des peines, qui, je le disais, est à la base un principe de droit pénal, et qui répond à une exigence constitutionnelle, donc qui s'impose avec une particulière vigueur à l'ensemble des juridictions et à l'ensemble des organes administratifs qui peuvent prononcer une sanction. Il s'agit de regarder au cas par cas, véritablement au cas par cas, l'effet de l'espèce, et au regard de ces faits, de décider d'une sanction proportionnée, cette proportionnalité étant une condition de la régularité de la sanction qui est appliquée. Donc toute sanction disproportionnée, qui n'obéit pas au principe d'individualisation des peines, serait irrégulière. Donc le rapporteur public rappelle à la formation du jugement qu'il faut bien s'assurer de cette individualisation et de cette proportionnalité.
Donc en gros, il dit que n'oubliez pas qu'il faut bien regarder le cas particulier de Madame S en l'espèce et que moi je l'ai bien regardé et ce que je vous dis, c'est que ce qu'elle nous dit, c'est pas exactement ce que la commission de sanctions a regardé, elle, n'est pas exactement ce que j'estime être la réalité des choses.
Alors déjà, il dit ça, effectivement, donc sur les deux points que sont le nombre vraisemblable d'injections et les conséquences de l'arrêt de l'envoi des photos, l'absence de mise à l'écart. Et il continue, ça c'est important pour la suite, donc le rapporteur continue, nous ne mettons évidemment pas en doute que Madame S se soit vue infliger des comportements gravement inappropriés, c'est le point le moins discutable du dossier. Mais ce n'est pas l'objet de la procédure devant la FLD de punir ces comportements et de réparer le tort subi par Madame S. D'autres actions sont en cours, pour cela, à son initiative, devant l'UCI, dont les instances ont suspendu le directeur sportif pour violation du code d'éthique, décision qui fait l'objet d'un appel pendant devant le tribunal arbitral du sport. Une plainte devant le procureur de la République, dont nous ne connaissons pas les suites à ce jour, ça c'est le rapporteur public qui parle donc en début d'année 2022, ploum ploum, une plainte devant le procureur de la République, dont nous ne connaissons pas les suites à ce jour, a été déposée. Alors, petite précision à ce sujet-là, la plainte en question vient d'être classée sans suite par le procureur. Le procureur a fait un petit communiqué de presse et a considéré que, pour lui, l'infraction était insuffisamment caractérisée, je cite, et qu'il n'y aurait, je cite toujours, pas d'intention de harcèlement sexuel de la part du directeur sportif. Et le procureur, enfin, évoque une, je cite encore, « incompréhension en lien avec une maîtrise limitée de l'anglais de la part du directeur sportif ». Voilà, c'est les quelques dernières nouvelles que j'ai sur le sujet, j'en ai pas davantage d'explications. Toujours est-il que, à ce stade, la procédure pénale qui avait été introduite par Marion Sicot contre le directeur sportif pour harcèlement sexuel a été classée sans suite. Ça ne veut pas dire qu'il ne va plus rien se passer, hein. Il y a d'autres voies à la disposition de Marion Sicot pour essayer de continuer cette procédure pénale, mais pour l'instant, elle est classée sans suite.
Wow. Donc on a eu quand même beaucoup, beaucoup de précisions.
Juste un point, Marion Sicot est elle-même poursuivie par son directeur sportif et l'audience aura lieu au mois de septembre, il me semble, pour diffamation, puisque à partir du moment où on impute à quelqu'un un comportement aussi grave que celui de harcèlement sexuel, qui constitue évidemment un délit, la personne en question, ici, a jugé utile de répliquer par une plainte en diffamation. Bon, je ne sais pas du tout ce qu'elle donnera, hein, bien évidemment, mais c'est peut-être un autre volet de l'affaire à suivre au mois de septembre.
Ouais, effectivement, donc la pauvre Marion, elle n'est pas encore sortie d'affaire dans ses déboires juridiques.
Alors, écoute, Thomas, merci beaucoup pour toutes ces précisions. Tu voulais encore conclure sur tout ça?
Tout à fait, parce qu'on n'est pas encore au bout de nos peines. On croyait qu'on avait fini, mais non, pas du tout. Mais on approche quand même de la fin. Donc, si je résume un peu toute la longue citation que je viens de faire, le rapporteur public dit on a un comportement gravement inapproprié. Nous, Conseil d'État, on n'est pas là pour sanctionner le directeur sportif. Et il poursuit en rattachant la question au sujet principal, il poursuit, la question est en revanche seulement de savoir si ce contexte, donc de harcèlement sexuel qui pour l'instant n'est pas reconnu comme tel, savoir si ce contexte a déterminé le choix de Madame S d'avoir recours au dopage au point de justifier l'atténuation de la sanction. Parce que la question qui est ici posée et qui est primordiale, et c'est ça qui va en fait commander la décision du Conseil d'État, question qu'il pose ici, c'est celle du lien de causalité entre le contexte, qui n'est pas nié par le rapporteur public, et le comportement dopant, la prise de PO de la part de Marion Sicot. On a une situation de départ, le supposé harcèlement sexuel, une situation d'arrivée, le dopage. Maintenant, le rapporteur public dit il faut tisser un lien de causalité entre les deux. Et c'est seulement si ce lien de causalité est caractérisé, il est prouvé, qu'on pourra considérer que le comportement dopant a été justifié, ou en tout cas en partie motivé par le contexte de harcèlement, et pourra constituer une circonstance particulière qui justifie qu'on réduise la durée de la sanction. Et le rapporteur public continue, or, c'est précisément là que le dossier est bien plus faible. On n'y identifie aucune pression ou incitation à se doper de la part de l'encadrement de l'équipe, pas même par le biais de comportements humiliants subis, et pas non plus par des mesures de rétorsion à son encontre. C'est ici que nous estimons important de rappeler que Mme S n'est pas été, jusqu'à la date des faits de dopage, mise à l'écart de l'équipe, contrairement à ce qui a été retenu, par la commission des sanctions. Il continue encore, la citation est longue mais elle me semble éclairante. Dans ces conditions, parmi les explications données par l'intéressé à son geste, la recherche de meilleure performance, qui n'est pas autre chose que l'objectif premier de tout dopage, apparaît plausible. Celle d'une issue à la situation qu'elle subissait, et quelle issue au demeurant en restant dans la même équipe, s'interroge le rapporteur public, se comprend beaucoup moins bien. Il termine « Au titre de la proportionnalité, on ne peut en outre perdre de vue que les faits reprochés ont été commis par une sportive professionnelle expérimentée, exerçant par ailleurs comme enseignante, qui ne pouvait donc ignorer s'exposer à de lourdes sanctions. » En résumé ici, le rapporteur public considère que, au regard des pièces qui figurent dans le dossier, il n'arrive pas à caractériser ce fameux lien de causalité entre le harcèlement supposé toujours, et la conduite dopante, l'athlète aurait cherché à se procurer de meilleures performances, mais que cette recherche de la meilleure performance, il ne serait pas démontré qu'elle serait en lien avec la situation de harcèlement du directeur sportif. Et que donc, on n'a pas de caractérisation de circonstances particulières qui justifierait une réduction de la sanction. Et, dernier point, pour conclure sur cette longue citation, vous remarquerez que, tout à la fin, le rapporteur public retient quasiment des circonstances qu'on pourrait considérer d'aggravantes, c'est-à-dire celui du caractère expérimenté de l'athlète et de ses fonctions d'enseignante. Je trouve ça intéressant parce que ces circonstances aggravantes, elles n'ont en principe pas à être rapportées pour justifier la sanction de 4 ans, puisque je rappelle que la sanction de 4 ans, c'est le principe.
C'est le défaut, ouais, voilà. C'est ça.
Donc là, on a une espèce de motivation surabondante.
Surjustification, exactement. Ouais.
Voilà.
Malgré tout, moi, je voulais réagir à ce que tu disais et à ce que rapportait justement le rapporteur public, c'est qu'on sent bien quand même que dans la majorité de la réflexion, elle se porte sur plus sur la forme que sur le fond, c'est-à-dire on va pas j'ai l'impression que en voulant démontrer ce lien de causalité entre le prétendu harcèlement subi par Marion et l'intention de se doper, la conduite dopante, il cherche justement le lien qu'il peut y avoir entre les deux. Il n'a pas forcément apporté un jugement sur le fait qu'elle l'ait fait ou qu'elle ne l'ait pas fait, mais plus à trouver cette solution, ce lien de causalité. Est-ce que je me trompe ?
Oui, c'est bien ça.
Donc on pourrait presque dire qu'il a plus jugé vraiment, effectivement, en droit que sur les faits en eux-mêmes. Enfin, juger, apporter des éclaircissements sur sa compréhension à lui.
Sachant qu'ensuite, c'est globalement le même raisonnement que va retenir le Conseil d'État dans sa décision proprement dite. Je lis juste le passage de la décision et je réponds à ta question juste après. Donc le Conseil d'État, dans sa décision proprement dite, écrit que il ne résulte pas de l'instruction, donc toute la phase d'examen du dossier, que la situation d'emprise que la commission des sanctions a cru pouvoir caractériser sans avoir fait usage de ses pouvoirs d'instruction, c'est-à-dire sans avoir auditionné les témoins, sans avoir fait d'enquête particulière sur le sujet, donc cette situation d'emprise, puisse avoir un lien avec le dopage de madame, alors eux ils l'appellent madame A, c'est plus madame S, on a changé de, lettre. okay. Donc oui, c'est une décision en droit parce qu'on est sur la notion assez juridique de lien de causalité, mais cette recherche du lien de causalité, elle est au contraire extrêmement concrète et factuelle dans les pièces du dossier. Il ressort pas, c'est difficile hein, de prouver des fois un lien de causalité qui dans certaines circonstances peut être une construction purement intellectuelle et qui peut pas se constater matériellement. Mais ici, en fait, le lien de causalité entre le contexte et le comportement, il faut bien constater que, sauf erreur de ma part, encore une fois je connais pas le dossier, mais il semble ne ressortir que des explications fournies par Marion Sicot sur les motivations de son geste. Et qu'il n'y a pas de pièces tangibles qui permettent d'établir ce lien de causalité. Donc il ne s'agit pas de dire, selon l'expression éculée, c'est parole contre parole, quoi que ce soit, mais simplement, oui, concrètement, quand on regarde les pièces du dossier, tout ce qu'on a, c'est Marion Sicot qui explique que c'est parce qu'il y avait ce contexte de harcèlement qu'elle s'est dopée, mais en pratique, on ne le constate pas dans le dossier, et donc en l'absence de démonstration de ce lien de causalité, de démonstration concrète de ce lien de causalité, on ne peut pas considérer que le contexte constitue une circonstance particulière qui explique le comportement dopant et donc qui justifie une réduction de la sanction.
Et donc du coup, c'est le défaut qui s'applique, donc 4 ans, et donc ça explique la décision finale.
Exactement.
C'est ça. Et peut-être justement pour conclure, c'est que au final, le Conseil d'État n'a pas aggravé la sanction, il a juste rétabli la sanction qui aurait dû être attribuée en première instance. Si, et là pour le coup, le Conseil d'État a cassé le raisonnement de la commission des sanctions.
Ouais, alors de fait, il l'a quand même aggravé, puisque c'était à la base, la sanction était bien de 2 ans, mais il l'a porté au principe de ce que prévoit, à la solution de principe de ce que prévoit le Code du sport. Ouais. Il y a une juste, je termine sur la décision du Conseil d'État qui relève, et c'est ce qu'on appelle un considérant de principe, c'est-à-dire une motivation type qui revient dans toutes les décisions qui concernent le même sujet. Et le Conseil d'État donc réforme plus exactement la décision de la Commission des sanctions et écrit que la Commission des sanctions ne pouvait s'en porter atteinte à l'effet utile du dispositif de lutte antidopage limité à 2 ans les interdictions qu'elle a prononcées, donc les sanctions. Donc, je trouve ça intéressant cette notion à l'effet utile du dispositif de lutte antidopage qui semble être un phare dans le raisonnement adopté par le Conseil d'État qui en revient un petit peu à l'objectif de l'arsenal législatif. On a posé des règles sévères pour lutter contre la lutte antidopage. Si on commence à y faire des entorses et à considérer les circonstances particulières qui doivent être particulièrement motivées avec un petit peu trop de légèreté, on porte atteinte à l'effet utile de ce dispositif. C'est ce qu'explique ici le Conseil d'État pour finir de justifier sa décision.
Donc le message finalement, il est simple, si vous ne voulez pas de condamnation, ne vous dopez pas.
Voilà.
Voilà, voilà. Et puis, si vous vous dopez, vous aurez une sanction exemplaire pour dissuader les autres de se doper. Et c'est comme ça qu'on arrivera à lutter contre ce fléau, en fait.
Ouais, c'est bien l'idée.
Voilà. Très bien. Écoute, merci Thomas d'avoir éclairé nos lanternes qui, je dois le dire, n'étaient pas très brillantes au début de cet épisode par rapport à tous ces dispositifs, à toutes ces procédures, à toutes ces choses qui nous échappaient et puis qui ont rendu beaucoup plus claires en fait toutes les questions qu'on se posait à l'issue de l'enregistrement avec Marion Sicot.
Eh ben merci à vous, merci pour votre curiosité, et c'est pas tous les jours qu'on a des droits de suite sur des sujets juridiques et sûrement pas dans les médias de façon générale, donc grand merci à vous et bravo pour ça et pour le reste de votre œuvre.
Écoute, merci à toi en tout cas d'avoir pris contact avec nous pour nous éclairer là-dessus. C'était un vrai plaisir d'enregistrer cet épisode et on espère, alors on sait qu'on n'a pas énormément parlé de sport dans cet épisode, on espère que nos auditeurs auront quand même appris quelque chose et auront trouvé cet épisode intéressant pour arriver au bout un petit peu de l'épisode qu'on avait ouvert avec Marion Sicot qui explique un peu des choses pour lesquelles on n'avait pas de réponse pendant l'enregistrement en question.
Si personne ne s'est endormi en cours de route chez les auditeurs, auditeurs qui écouteraient ça en courant, ce qui pourrait être dangereux, ce serait déjà formidable.
Ce serait compliqué. Voilà, non, mais je pense que personne s'est endormi.
Et du coup, pour juste conclure là-dessus, moi je dirais que si comme Thomas, si comme Maître Forêt, vous avez des questions ou vous avez des envies de préciser certaines choses que l'on peut dire qui parfois peuvent être soit approximatives, soit complètement fausses, ou soit simplement ont besoin d'être précisées, et ben n'hésitez pas à faire comme Thomas. Vous pouvez nous joindre sur Facebook, sur Twitter, sur Instagram. Vous pouvez aussi aller sur podcast.nakan.ch, cliquer sur nous contacter et puis nous laisser un petit message et on se fera un plaisir, soit de diffuser votre message et de réagir dessus, soit faire comme avec Thomas, parce que là, pour le coup, on a bien fait de t'inviter, on aurait été bien incapable de résumer ce que tu aurais pu nous préparer, et on te remercie énormément d'avoir apporté toutes ces précisions.
Merci beaucoup à vous.
Merci.
À bientôt pour un nouvel épisode.